Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram. Taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon... Salut les extraterriens! Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Ils proposent des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode.
Mon invité du jour.
C'est bon, on est en train d'enregistrer avec Alain. Comment vas-tu Alain?
Ça va très bien, merci.
Mais écoute, merci de m'accueillir au Club Nautique d'Antibes. Là, on est dans ton fief, dans ta deuxième maison, on peut dire ça?
Ouais, deuxième maison. J'y ai passé beaucoup de temps, fut un temps. Maintenant, beaucoup moins, mais c'est mon club de cœur avec lequel j'ai terminé ma carrière et où je suis très engagé aujourd'hui. Donc, le panorama, comme tu peux le voir, est plutôt sympa et ça a facilité les choses quand il a fallu bosser dur, de bosser dans un environnement ensoleillé avec une météo clémente, donc c'est cool.
Ouais, mais ça je veux bien te croire que ça donne du baume au cœur, c'est plus facile de se lever le matin, même en hiver, parce qu'en plus le l'eau est pas chaude.
Normalement l'eau est bien chauffée, on est à, on va dire, aux alentours de 27-28 degrés. Quand elle est à 24-25,
il fait très froid. J'ai vu Florent il y a pas longtemps, il me disait qu'il y avait des petits soucis sur eux.
Il y a eu certains problèmes, c'est vrai quand on est sur des bassins extérieurs, quand il y a beaucoup de vent, c'est plus le vent qui refroidit l'eau que la pluie, contrairement aux idées reçues. Et là, en effet, quand elle descend en dessous, déjà 26 voire 25 degrés, mais pour des nageurs de haut niveau, c'est, ça pique un peu. On l'a tous connu.
Parce qu'en compète, ouais, elle est à 28. Normalement, la température réglementaire.
En compète, la température réglementaire, c'est 26,5 plus ou moins 1 degré. Donc finalement, c'est pas très chaud, quoi.
Ok, d'accord. Ok. Bon bah écoute, je vois un peu de nostalgie dans tes yeux quand même. Effectivement, pour les auditeurs qui voient pas, on est face à tout le port d'Antibes, donc on voit quelques très très gros bateaux et très jolis bateaux, la grande roue aussi.
Le port d'Antibes, la vieille ville, le fort carré. Et tiens, un petit peu d'histoire. Antibes, c'est tiré du nom grec Antipolis, la ville d'en face. Parce qu'avant, le comté de Nice était étranger. Il fallait se protéger des étrangers, des agresseurs. Et la ville d'Antipolis est devenue plus tard la ville d'Antibes. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil historique.
Ok. Grand passionné d'histoire, je crois, non ?
Oui, mais vraiment sur le tard. En fait, quand j'étais à l'école, je ne sais pas si c'était ton cas, mais moi, ça me saoulait très vite les cours d'histoire. Alors qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une émission, un reportage, un documentaire qui passe sur l'histoire... en général, et l'histoire de France, eh bien, c'est quelque chose qui me passionne. Alors, je ne suis pas un expert, hein, loin de là. On parlera bien plus longtemps, je pense, d'aéronautique et d'avion que d'histoire. Mais curieux de comprendre comment est-ce qu'on en est là aujourd'hui. Voilà, comment est-ce qu'on s'inscrit dans cette histoire avec un grand H et dont le sport peut aider à s'inscrire là-dedans, quoi.
Ok. T'as mentionné un peu ton enfance. Je te l'ai dit, il y a une question traditionnelle sur le podcast, c'est un peu de comprendre qui vous étiez, tous les champions et championnes, quand vous étiez un peu plus jeune. J'ai dit biais de papa, biais aussi de personnel. Mais toi, quel est ton premier souvenir de sport, Alain ?
Premier souvenir de sport, donc moi déjà, je suis né à Aubagne, à côté de Marseille, et j'y suis resté jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Quand j'ai 10 ans, on est en 1993, l'Olympique de Marseille vient de remporter sa Coupe d'Europe. Un an après la déception... en finale, d'ailleurs, c'était une très belle revanche. Et pour moi, c'est un moment marquant parce que c'est l'une des premières fois que je vais constater la force et la puissance du sport en voyant des tas de voitures klaxonner dans la rue, des gens en liesse, même si on est à quelques kilomètres de Marseille à ce moment-là. Ça se fait sentir et je dis waouh, c'est ça la puissance du sport, c'est ça la force et l'émotion que ça dégage.
Ouais, ok. Et c'est ça qui te fait vibrer du coup, c'est la foule ?
Oui, le côté rassemblement en fait. Moi, c'est ça qui me fait triper parce que peu importe notre histoire, nos tracas, nos soucis, notre histoire de vie, quand on partage un moment fort dans le sport, on oublie tout ça. Il y a une forme d'unité naturelle qui se crée. C'est ce pourquoi j'essaie d'œuvrer aujourd'hui dans ma reconversion, c'est d'essayer de rassembler un maximum de personnes, que ce soit par le biais du sport, mais par plein d'autres moyens.
Bon, on va en reparler un petit peu. Tu racontes souvent, effectivement, que tu es tombé un petit peu dans la natation par le biais de tes grandes sœurs, qui ont 9 ans et 6 ans de plus que toi.
C'est ça, 6 ans, 9 ans de plus. Mes grandes sœurs, en fait, on habitait à côté d'une piscine tournesol. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est des piscines en forme de soucoupe volante. Ça fait partie du projet des 1000 piscines qui a été mené en France dans les années 70. Et grâce à cette piscine qui est tout proche de la maison, ben finalement, ça va faciliter non seulement l'apprentissage dans un premier temps, et puis derrière, on chope le virus, comme on dit, on commence à s'inscrire au club de natation, les premiers entraînements réguliers, les compétitions, les stages et toute cette aventure humaine en fait autour de ce sport.
Ouais. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas compris en revanche, c'est qu'est-ce qui, toi, t'a plu dans la nage, la natation ? Est-ce que c'est le geste parfait ? En plus, j'ai l'impression, tu vois, tu te décris notamment dans ton livre comme un enfant un peu turbulent, qui a besoin de beaucoup s'occuper, de canaliser un petit peu son énergie. La natation, c'est pas réputé comme étant le sport le plus joueur, dans lequel il y a le plus de nouveautés. Qu'est-ce qui t'a plu, toi ? Qu'est-ce qui t'a excité ?
Il y a le côté un petit peu solitaire, parce qu'en fait, voilà, quand tu t'entraînes, tu t'entraînes bien, tu es récompensé le week-end en compétition. Quand tu t'entraînes pas bien, ben le couperet tombe assez vite. Donc finalement, ça te met un peu face à tes responsabilités. Ce qui m'a plu, c'est ce côté aventure, cohésion. Moi, j'avais pas confiance en moi. Je mesurais une tête de plus que tous mes copains quand j'étais ado. Je pesais peut-être 5 kilos de moins, donc je m'assumais pas déjà physiquement. Et paradoxalement, quand on se retrouvait dans une piscine, eh bien, on était toutes et tous dans la même situation. On était en maillot et peu importe qu'on soit grand, longiligne ou petit et trapu, en fait, on passait de bons moments ensemble. Donc, ça m'a aidé à avoir confiance en moi et finalement, c'était un genre de refuge ou un échappatoire par rapport au collège ou au lycée où je me sentais pas bien. Et bien, le fait d'aller dans l'eau tous les soirs, j'avais l'impression que j'étais beaucoup plus à l'aise que dans la journée.
Ouais, c'est un nouvel élément du coup qui...
En effet, alors ce nouvel élément, c'est quelque chose qui est fascinant aussi. Voilà, le fait d'évoluer dans l'eau, le fait de pouvoir se déplacer dans les trois dimensions et se projeter sur des chronos. Moi, c'est vraiment ça qui m'a plu aussi, c'est que les conditions sont vraiment équitables, sont les mêmes pour tout le monde sur une compétition de natation. natation. Il y a pas, on n'est pas soumis à un jugement humain sur une notation, à des conditions climatiques. On a un couloir, on a une ligne, on a une chance de s'exprimer, et comme tous nos concurrents. Et c'est ce sentiment d'équité qui m'a plu aussi.
Ouais, c'est vrai que pour le coup, c'est un sport très juste, quoi. Il y a pas de surprise.
Tu peux pas trop tricher.
Bon, il y a eu, on pourra reparler un peu après des combinaisons et de tout ce qu'il y a eu, mais à la limite, c'était pas nécessairement. Enfin, c'était plus une évolution technologique qui devait arriver aujourd'hui. Et comme on peut le voir aujourd'hui dans la course à pied, tu vois, sur marathon avec les chaussures à plaque carbone et tout, mais c'est un autre débat. Mais écoute, je te fais une confidence et je suis content d'en parler avec toi. Et tu vois, en lisant ton livre, je me suis beaucoup reconnu, pas reconnu directement parce que moi j'étais le plus petit de la classe. Sur toutes les photos de classe quand j'étais au collège, j'étais à côté de la prof principale au premier rang et j'étais le seul garçon du premier rang parce que j'étais tellement petit, il n'y avait pas d'autres garçons qui pouvaient y aller. Et par contre, mon meilleur copain, c'était le plus grand de la classe. Souvent, quand on en parlait, il me disait, mais
on aurait pu être très potes parce que j'avais un très bon copain aussi où c'était les mêmes conditions, c'est marrant.
C'est vrai. Et tu vois, moi je lui disais, ouais, je suis pas bien, je suis tout petit, je sais pas me défendre. Et lui, il me disait, ouais, mais tu vois, toi à l'école, tout est fait pour toi. Moi, la table, elle est trop petite, la chaise, elle est trop petite, même la porte, je peux me la prendre, tu vois. Et pour lui, ouais, rester assis, c'était un calvaire également, quoi. Et je sais qu'on. En grandissant, on en a beaucoup parlé, tu vois, de se sentir un petit peu à l'écart du moule parce que ton corps est un peu différent des autres, quoi.
Bien sûr. On se sent vite différent et je pense que là, quand on grandit aussi, c'est quand on est capable de s'accepter. Voilà, à partir du moment où j'étais capable de m'accepter, ben, paradoxalement, mes performances en compétition sont devenues un peu plus en phase avec ce que je faisais au quotidien à l'entraînement, quoi.
Ouais, ouais. Tu parles beaucoup de ton rapport au corps, d'ailleurs, dans ton livre. Est-ce que ça a été une source de motivation, justement, pour te muscler, pour être sprinter? Il y a cette superbe photo où tu sors de l'eau, tu vois, à Pékin, et on voit vraiment, tu vois, l'athlète, tu vois, dans toute sa splendeur, tu vois, avec les muscles tout congestionnés et tout. Est-ce que c'est une source de motivation, en plus, de trouver une certaine confiance en son corps?
Oui. Au bout d'un moment, en fait, tu passes de quelqu'un qui regarde tout le monde, après de nombreuses années et de travail acharné, bien sûr, à des personnes qui te regardent en t'idolâtrant. Donc, c'est complètement paradoxal en disant « Mais moi, il y a quelques années, j'étais comme vous. » Et voilà, moi, j'ai travaillé. Et bien sûr, à un moment donné, il faut soulever de la fonte, il faut faire de la musculation pour se déplacer le plus vite possible. Je n'ai pas fait forcément pour le rapport au corps, même si, bien sûr, ça a aidé à être plus à l'aise dans mon corps. Je ne l'ai pas fait pour ça. Sinon, j'aurais fait uniquement la natation. Je n'aurais pas fait 50 000 km en nageant.
C'est vrai. Dès très jeune, c'est le sprint qui se démarque?
Non, loin de là. C'est ce que je dis aussi souvent quand je rencontre des jeunes. Moi, je faisais du 200 mètres d'eau et du 400 mètres 4 nages. Donc, deux courses qui n'avaient rien à voir avec le sprint. Mais c'est mon entraîneur, Denis Hauguin, qui a décelé des capacités de sprinter vers l'âge de... assez tardivement, hein, vers 18-19 ans. Et c'est là où progressivement, je vais basculer du catenage au dos et après dos crawl et vraiment me spécifier sur 50, 100, 200 mètres nage libre et après 50, 100 mètres nage libre.
Ok. Tu vois, juste avant qu'on parle de Denis, parce que c'est magnifique, enfin, tu vois, l'hommage que vous faites mutuellement et j'aime beaucoup parler de la relation entraîneur-entraîné et on sent que c'est un duo absolument unique. Je voulais te poser une question que j'ai peut-être pas vue ou peut-être pas lue assez profondément, mais dans ton autobiographie, tu dépeins un portrait assez particulier de toi. Tu parles de manque de confiance, tu parles aussi d'harcèlement. Tu voulais ouvrir ce débat-là et essayer de donner des outils pour peut-être des gens qui en souffrent. Mais j'avais quand même envie de savoir, tu vois, avec le recul, toi, quand tu regardes et tu essaies d'avoir un peu de bienveillance avec le jeune Alain qui était au collège, qu'est-ce qui, avec le recul, te laisse pressentir un futur champion? Parce qu'il y a quand même des choses, et en te lisant, tu sais, on se dit, waouh, en fait, Alain, rien n'était prédestiné à toi.
Ouais, bien sûr, c'était loin d'être écrit, d'être destiné comme ça, mais je pense qu'il y a des traits de caractère qui ne trompent pas déjà, peut-être dès le plus jeune âge. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, mais en même temps que je me sens observé, parfois épié, pas bien dans ma peau, je reste curieux d'énormément de choses, même si je suis pas forcément un bon élève. On parlait en introduction de l'histoire. Aujourd'hui, je suis curieux d'histoire et je suis curieux, par exemple, de physique, de chimie, d'astronomie. Et je pense que ces traits de caractère, j'ai réussi à les mettre en exergue et les magnifier, j'ai envie de dire, dans le sport et le sport de très haut niveau. Et quand on fait du sport de très haut niveau, que l'on est curieux, on a envie de comprendre ben, pourquoi nos adversaires nagent plus vite que nous. Qu'est-ce qu'ils ont au-delà de la taille, de la force, de la puissance qu'ils peuvent dégager? Quelle est vraiment leur différence? Et en fait, quand on se pose ces questions, on se dit, mais en fait, ce garçon ou cette fille, ou qu'elle soit cette championne, ce champion, il n'a rien de plus que moi. Il a une tête, deux bras, deux jambes. Il sait juste mieux s'en servir que moi. Donc, comment est-ce que moi, je peux faire en sorte de mieux me servir de mon corps, dans lequel je ne me sens pas forcément bien? Et bien, justement, pour en faire presque... pas une arme, mais une force en me disant ben, je suis capable aussi de faire comme lui parce qu'on est tous uniques et singuliers sur cette terre et c'est ça qui est fascinant. Moi, je trouve que c'est On a toutes des petites histoires, mais on est tous tout petits, on grandit avec la vie, avec les épreuves de la vie, mais on est capable de se surprendre. Et en fait, c'est ça le message que j'ai envie de porter aux plus jeunes générations, c'est de dire faites-vous plaisir, mais engagez-vous. Si vous ne vous engagez pas dans un projet, peut-être vous aurez de la chance de pouvoir vous exprimer. Mais avec le travail, vous aurez quasiment cette certitude de tirer des enseignements. Que ça se manifeste par des performances sportives ou non, dans tous les cas, on apprend sur nous, quand on va dans des intensités de travail extrêmes, on apprend des facettes de notre personnalité qui sont insoupçonnées.
Ouais. Bien sûr. Donc toi, c'est ça qui t'a drivé, qui t'a motivé pendant longtemps, c'est ta curiosité et le fait que...
Et je suis têtu. On pourra en parler à mon entourage, mais voilà, je suis quelqu'un de têtu et j'ai jamais tort. Et ça peut être une faiblesse aussi, hein, mais voilà, quand je suis persuadé de quelque chose, je suis prêt à mettre les choses en face pour atteindre cet objectif que je me fixe.
Ok. Plus jeune, c'était quoi du coup tes objectifs ? Quand tu commences à bien nager, est-ce que...
Objectif sportif ?
Ouais, sportif et aussi peut-être de vie parce que je ne l'ai pas vu, tu vois, je n'ai pas réussi à le trouver en écoutant des interviews de toi ou en te lisant. Qu'est-ce qui te motivait au plus profond quand tu étais plus jeune ? Est-ce qu'il y avait un rêve caché ? Est-ce que c'était celui d'être champion olympique ? Je ne sais pas.
Non, mais...
Je peux comprendre que tu n'aimais pas perdre, mais aussi...
Ouais, mais j'ai peut-être beaucoup plus perdu que gagné, hein, contrairement à ce qu'on pense. Et c'est justement dans les échecs que l'on apprend à tirer les bons enseignements et faire en sorte qu'ils ne se reproduisent pas. Mais non, naïvement, j'ai envie de dire, tout petit, je rêve de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Peut-être quelqu'un de curieux, qui peut discuter avec énormément de monde, que ce soit des personnalités... public, issu du monde de la politique, des artistes, des entrepreneurs, des jeunes, des seniors. Aujourd'hui, j'ai cette carte de visite avec mon nom, prénom qui crée tout de suite ce petit lien, cette petite proximité. Et voilà, je rêvais d'être quelqu'un de décomplexé, finalement. Peu importe, bien sûr, les résultats sportifs, ils sont pour beaucoup. À cet âge-là, moi, quand je suis gamin, je rêve de devenir pilote, et pilote de chasse en particulier. Et un jour, je tombe sur un forum des métiers où il y a un gars qui me dit « Oh, mais tu arriveras jamais, c'est trop dur, il faut faire maths sup, il faut faire maths spé, c'est beaucoup trop compliqué. » Et de là, en fait, moi, naïvement, je le crois, je me dis « Bon, bah, ok, je vais même pas m'engager là-dedans et je vais mettre mon énergie, mon attention dans le sport et dans la natation en particulier. » Alors que j'aurais appris quelques années plus tard qu'il y a plein d'autres filières pour être pilote de chasse, par exemple. Il peut y avoir des recrutements sur le baccalauréat, sur motivation, bien sûr avec des qualités et du travail, mais il y a plein de situations d'échec où je me dis « c'est bon, je m'arrête là et je passe à autre chose ». Eh bien, j'ai mis des choses dans un coin de ma tête et pour y revenir un petit peu plus tard, et notamment, je ne suis pas pilote de chasse, loin de là, mais j'ai voulu me montrer, me prouver à moi-même que j'étais capable de faire autre chose que nager vite dans une piscine à un moment donné en passant mon brevet de pilote, par exemple.
Ouais, ouais, tout à fait. Bah, en plus, le pilotage, pour les gens qui ne connaissent pas et pour avoir interviewé quelques pilotes de chasse, c'est vraiment l'antithèse de la voie royale, quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de parcours pour y rentrer et ce qui compte, c'est la passion pour l'aviation avant tout, quoi. Et ça s'apprend tout seul, quoi.
On parle d'aviation de chasse, mais il y a aussi plein d'autres types d'aviation. Dans l'aéronautique, il y a des pilotes d'hélicoptères et des pilotes de ligne. Ce sont des qualités nécessaires, mais il faut énormément de travail pour y parvenir. Et de la passion, comme dans le sport. On est capable d'aller au bout de soi-même, encore une fois, quand on s'investit à fond dans un projet. Et pour s'investir à fond, il faut être passionné. Il ne faut pas compter ses heures, il ne faut pas compter ses déceptions, parce qu'il y en a à répétition encore et toujours. Il faut avancer, il faut apprendre. Il faut se dire, bon, ben, ok, là, j'ai identifié une erreur. Qu'est-ce que je fais pour éviter que cette erreur se reproduise dans le sport ou dans un cursus de formation ou dans un métier? C'est l'école de la vie, tout simplement.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, notre cerveau, il est feignant de toute façon. Donc, il veut de la récompense tout de suite. Et ce qui fait les grands champions ou ce qui fait peut-être les personnalités qui réussissent plus sont ceux qui sont capables justement d'encaisser les échecs et quand même de continuer sans que leur cerveau ait nécessairement de récompense, tu vois, et qu'ils continuent.
C'est pour ça que mon côté têtu a joué en ma faveur de ce côté-là, quoi.
Ok. Je sais pas, il y a des petites anecdotes sur lequel tu as été têtu justement et où ça a pu te jouer des tours ou au contraire, ça t'a beaucoup réussi étant plus jeune.
Ouais, sur le fait d'être têtu, je sais pas, mais tout petit, lors des premiers cours d'apprentissage de la natation, par exemple, je ne savais pas du tout nager. On était dans la piscine d'Aubagne, justement, et où le maître nageur nous fait faire des exercices avec mes copains à l'époque. Et moi, ne sachant pas nager, malgré tout, à un moment donné, je prends le risque tout seul d'aller vers le grand bassin en me tenant accroché au mur, quoi. Et là, mon maître nageur qui vient, il me cherchait, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « Bah, ben, j'avais envie de faire ça. » Et au lieu de me punir en disant « Bah, t'es pas avec le groupe », il m'a encouragé, il m'a félicité, il m'a dit « Ah, ben, c'est bien, c'est courageux de ta part, etc. » Bon, maintenant, reviens, il faut travailler. Mais voilà, le côté un petit peu, pas aventureux, mais audacieux, il était déjà là au fond de moi, quoi.
Ouais, bien sûr. Et à quel moment tu commences à penser que la natation, ça peut être un métier, ça peut être vecteur de performance? Est-ce que c'est la rencontre avec Denis? Est-ce que c'est une autre rencontre?
Oui, ça, c'est une rencontre avec Denis, mon entraîneur, à l'âge de 15 ans. Lui, c'est un jeune entraîneur. Moi, je suis un jeune grand nageur qui n'arrive pas à mettre un bras devant l'autre et qui va me, il va m'aider à avoir confiance en moi et il va déceler en moi des capacités qui vont me faire prendre confiance.
Qu'est-ce qui décèle chez toi?
Il décèle des qualités de sprinter. J'étais très mauvais, par exemple, sur les plongeons, les virages, les reprises de nage, etc. Mais j'étais capable de créer de la vitesse très rapidement. Par exemple, quand on faisait des exercices de sprint en nageant où on partait sans pousser au mur, on partait tous en ligne, il fallait se mettre en action le plus rapidement. Et bien là, j'arrivais à rivaliser avec les meilleurs du groupe, alors que la plupart du temps, j'étais forcément derrière. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui vont lui mettre la puce à l'oreille, quoi.
Ok. Et dans la personnalité, tu sais, ce qui lui a plu?
La personnalité, c'est que, en tout cas, de ce qu'il m'en a dit, c'est que je mettais longtemps à acquérir une compétence, peut-être un peu plus longtemps que mes copains d'entraînement ou mes adversaires. Mais une fois que j'avais acquis cette compétence, je ne faisais pas machine arrière. Et donc ça, un jour, il me l'a vraiment exprimé oralement, verbalement, et il me dit, ce qui est bien, voilà, c'est que c'est un peu chiant parce que tu mets longtemps à apprendre quelque chose, mais une fois que tu le sais, ben, tu ne régresses pas. Et voilà, j'ai essayé de me servir de ça comme une force.
Ok. Dans plusieurs interviews où tu te décris toi-même comme étant quelqu'un de pas spécialement talentueux, c'est quelque chose, tu vois, qu'on t'a répété étant plus jeune ou c'était une croyance que toi t'avais?
Je ne me suis jamais estimé talentueux, hein, surtout quand je te dis que j'avais des lacunes, par exemple au départ au virage, même à un niveau de compétition internationale, je me suis toujours senti en deçà de la plupart de mes concurrents. Voilà, parce que au bout de 15 mètres. Quand tu as beau travailler tes départs, tes coulées pendant des semaines, des mois, pour ne pas dire des années, et que tu sors encore 20 ou 50 cm derrière les autres, c'est un peu frustrant. Tu as envie de dire, putain, j'aimerais avoir ces qualités-là à lui. Par contre, j'ai essayé de mettre l'accent plus sur mes forces, en fait, qui étaient encore une fois de créer de la vitesse rapidement et d'entretenir cette vitesse derrière. J'étais convaincu à un moment donné que c'est ça qui ferait la différence, c'est de travailler sur ses forces sans négliger ses points faibles.
Ok. Tu rencontrerais Denis à 15 ans. À quel moment l'ambition, elle naît à l'intérieur de toi?
Bah, déjà, de passer de 5 entraînements à 11 entraînements par semaine vers 15 ans, il y a une volonté de se dire il faut travailler plus pour aller plus vite. Mais vraiment, le fait de se dire allez, je peux rentrer en équipe de France, etc., je dois avoir 19-20 ans et c'est pile le moment où malheureusement je vais rater ma qualification aux Jeux Olympiques d'Athènes pour quelques centièmes de seconde.
Il y a un très gros niveau non, déjà sur le sprint français.
Ouais, en ce moment-là, en plus, le sprint français commençait vraiment à s'affirmer. Les gars avaient été médaillés de bronze au relais 4x100 mètres. C'était en 2003, je m'en souviens comme si c'était hier. Et je revois les gars qui sont dedans. Je fais, mais tard, mais comment est-ce qu'on fait pour entrer dans ce relais, quoi? Enfin, moi, je veux en être de la partie. D'échouer si proche du but de rentrer en équipe de France et représenter son pays aux Jeux Olympiques, de l'ordre de 17 centièmes de seconde, hein, c'est ça qui va me dire, ok, dans 4 ans, il faut que tu fasses tout pour non seulement rentrer en équipe de France, mais aller au jeu et pourquoi pas faire une finale au jeu. Donc, c'est là où vraiment j'ai décidé d'enfoncer le clou sur lequel je tapotais depuis déjà 4-5 ans. Et là, je me suis dit, ok, il faut vraiment y aller, il faut bosser très dur et être encore plus vigilant sur tout ce qui est autour de l'entraînement dans l'eau. L'échauffement à sec, la récupération, l'hydratation, le sommeil, les séances chez le kiné. C'est tout un écosystème à mettre en place. Et j'ai mis mes études entre parenthèses pour ça et je n'ai jamais repris mes études d'ailleurs.
Ok. Comment est-ce que tu fais pour te former sur tous ces sujets? Tu te fais accompagner, tu fais beaucoup de recherches toi-même.
En fait, au moment où j'échoue ma qualif olympique, là, c'est l'année où je passe mes diplômes d'entraîneur. Et donc là, ça va me permettre finalement, comme si je nageais dans le noir depuis des années, de nager avec une frontale et dans la lumière pour comprendre ce que je fais. Et tout ce que va me donner Denis comme exercice à faire, je vais essayer de comprendre pourquoi et comment est-ce que je dois faire cet exercice.
Et tu le challenges.
Et voilà, c'est même pas du challenge, c'est de la communication qui va vraiment s'accroître entre nous. Je vais lui dire, mais voilà, pourquoi est-ce qu'on fait 10 fois 100 mètres et pas 20 fois 50 alors que le résultat fait 1000 mètres? En quoi c'est différent de faire des 100 mètres plutôt que des 50 sans avoir de parti pris en me disant, écoute, tu sais que je préfère faire des 50 que du 100 mètres. Je vais faire ce que tu me dis de faire à partir du moment où je le comprends. je vais être capable de faire cette tâche, cet exercice avec encore plus d'entrain, avec encore plus d'investissement, quoi.
Ok. Vous êtes nombreux à avoir passé ce diplôme d'entraîneur alors que vous êtes encore athlète de haut niveau?
À ce moment-là, dans le groupe dans lequel j'évolue, on est peut-être 2-3 sur une dizaine, sur une quinzaine. Mais après, à l'échelle nationale, oui, il y a quand même pas mal de nageurs de très haut niveau, dont notamment un garçon qui s'appelle Julien Sicot, qui était médaillé mondial dans le relais 4x100 mètres. C'était le sprinter de référence aussi. Voilà, on est plusieurs à avoir passé ce brevet.
Ok, mais en tout cas, c'est la première fois que je l'entends, tu vois. Donc, ça m'a surpris et en même temps, ça m'étonne pas.
Et puis, c'est une question aussi, au-delà de passer le brevet par le diplôme par curiosité, c'est de s'assurer un avenir professionnel. Parce que encore une fois, à ce moment-là, je ne suis pas en équipe de France. On est payé tant bien que mal au lance-pierre où je commence à avoir un partenaire, mais je suis loin d'en vivre. Entre mes deux entraînements de natation très tôt le matin et tard le soir, eh bien, je surveille la piscine et je donne des cours de natation à des enfants. Et c'est ça qui me permet de commencer à être autonome parce que mes parents ne pouvaient pas me payer ni la voiture, ni l'appartement, ni tous les vivres à côté. Donc, je voulais aussi être autonome et c'est dans cette démarche-là que je passe ce brevet.
Ouais, bien sûr, bien sûr. T'étais anxieux du futur ou de ce qui pouvait se passer si justement la natation s'arrêtait, s'il y avait plus de...
Oui, je l'ai toujours été, je le suis encore aujourd'hui. Hein. Je suis encore anxieux aujourd'hui, même si j'ai l'impression d'être un petit peu plus armé qu'à l'époque, de me dire qu'est-ce qui se passe dans un an, deux ans, dans quatre ans, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir. C'est humain d'avoir cette appréhension de l'inconnu parce qu'on se remémore de manière très nostalgique et très régulière nos passés, mais notre avenir, il est souvent incertain, quoi. Et en même temps, on se dit, si je travaille bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, donc j'essaie de me raccrocher à ça. Mais oui, dès 20, 21 ans, je suis extrêmement soucieux de cet avenir, quoi, qui est loin d'être tracé.
Ouais, ok. On dit souvent d'ailleurs que les gens très anxieux vont être très perfectionnistes ou se remettre beaucoup en question et que... ça peut devenir facilement une force si justement si tu l'utilises comme un moteur, quoi.
Ouais, je pense que ça peut être une capacité de concentration monotâche, en fait. C'est-à-dire que d'essayer de penser à plein de choses en même temps, être hyper concentré sur un exercice spécifique que l'on fait. Et ça, c'est à l'épreuve du temps. Ça peut être le temps de quelques allers-retours dans un bassin ou sur une semaine ou deux ou sur une année ou plusieurs années complètes. C'est cette capacité à être concentré en se disant, à ce moment-là, et c'est ce que je me dis quand je suis ado. Je me dis, je suis à la piscine, je suis là pour m'entraîner. Je suis pas là pour me divertir. Je suis pas dans une salle de cinéma avec mes copains. Je suis pas avec eux en train de jouer au foot ou faire du vélo. Je suis à la piscine pour m'entraîner, pour obtenir un résultat. Donc, essayer de faire en sorte que sur ces 2 heures d'entraînement passées dans l'eau, il y ait le moins de déperditions et il y ait le moins de moments auxquels je pense à ce que j'ai fait la semaine dernière, à ce que je vais faire le mois prochain ou le week-end qui arrive, etc. C'est essayer d'être pleinement présent et connecté à ce que l'on fait.
Ok, tu fais une transition toute faite pour la prochaine question que je voulais te poser. C'est un peu sur celle de la chambre d'appel, parce qu'en te lisant, désolé, je recite ton livre, mais ça a été une belle source d'inspiration pour moi. Et puis, il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées très intéressantes à titre individuel. Il y a un petit peu l'antithèse du sprinter par moment, notamment que ce soit en athlétisme ou que ce soit en natation. Je pense à Cielo ou d'autres nageurs, peut-être Yann Thorpe aussi, je le connais un peu moins, mais qui pouvait paraître très arrogant, très sur deux, très écrasant aussi vis-à-vis des autres. On a forcément aussi l'image de Usain Bolt ou de Justin Gatlin, tu vois, ces personnages très exubérants. Toi, on ne te sent pas du tout dans ce registre-là pour t'affirmer avec ces gens-là. Comment tu canalises un peu cette énergie, cette testostérone qui est autour de toi pour te concentrer et être la meilleure version de toi-même sur ton plot au départ, juste avant le plongeon?
On est proportionnellement serein à la capacité de travail fournie. Donc après, il y en a qui, bien sûr, vont user peut-être de leur aura ou de leur force ou de leur voix ou de leur geste, peu importe, pour avoir ce côté exubérant, démonstratif, etc., pour dire « je peux être le plus fort et j'essaie de te déstabiliser ». Mais j'ai tout le temps eu en mémoire une grande rivalité qu'il y a eu dans la fin des années 90, début des années 2000, entre Alexander Popov et ses principaux concurrents. Et voilà, pour moi, Alexander Popov, c'était un modèle, c'est la force tranquille qui fait qu'on en découd dans l'eau. On n'en découd pas à la chambre d'appel ni à travers la presse interposée. C'est que le vrai affrontement, il se passe le temps d'un aller-retour dans un bassin. Et ce qui se passe autour, en fait, c'est presque pas du pipi de chat. Mais bien sûr, ça a son importance d'être serein, de montrer cette sérénité dans la chambre d'appel. Parce qu'il y a des courses qui peuvent se jouer ou se perdre à ce moment-là. Mais il y en a beaucoup qui s'y sont cassés les dents aussi. Donc, sans un souci d'imitation. Je pense que c'est ce qui me caractérise aussi. Voilà, je suis quelqu'un d'assez posé et mon passé de gamin plutôt introverti, timide, etc., c'est un peu plus à mon avantage où voilà, je suis moi-même dans une chambre d'appel.
Et comment tu te fais pour pas te laisser justement trop influencer par ces gars-là ? Parce que moi, je sais que j'aurais pas aimé me retrouver dans la même chambre que ces bonhommes, tu vois, qui...
Ouais, mais c'est... Je dis pas que je ne l'ai jamais été influencé, loin de là. Il y a eu des moments d'apprentissage, mais voilà, je me souviendrai toujours de mes premières finales en compétition internationale, où j'arrivais, j'étais hyper stressé, etc. Et puis après, quand je suis passé de l'autre côté, ou quand je bats le record du monde à Eindhoven en 2008, en demi-finale, j'arrive en finale le lendemain dans la chambre d'appel. Rien qu'au regard des gars, j'ai gagné avant même de nager, quoi. Parce que j'ai une force, une assurance incommensurable à ce moment-là, quoi. On a juste envie que ces moments, ils durent une éternité, alors que c'est très ponctuel et sporadique.
Ouais, bien sûr. C'est par les résultats que tu fais taire tout le monde, quoi.
Ouais, par les résultats. Et encore une fois, par le travail, c'est ça qui t'emmène la sérénité, quoi. Et comme je savais que j'avais bien travaillé, j'étais serein, quoi.
Ouais. Ok. Il y a une autre pression aussi, peut-être, on en parle peut-être pas tout le temps, mais c'est à l'intérieur peut-être de l'équipe de France. Tu vois, tu fais partie de la génération hyper dorée où vous explosez un peu tous. Je sais plus combien de médailles vous ramenez de Pékin ou...
Alors c'est Pékin.
C'est à Athènes qu'il y a déjà une première raflée de médailles.
C'est ça, à Athènes, on a déjà 3, 4, 5, 6 médailles en fait, avec l'or et Solène Figuès, Maya Metella, Hugues Dubosc. 2008, ça allait un peu plus. 2012, ça allait encore plus. Mais là, c'est la fin de ma carrière, donc c'est plutôt félicitations aux autres aussi. Il y a une visibilité croissante en fait sur une médiatisation croissante sur la natation aussi qui est extraordinaire. C'est les championnats d'Europe en 2010 où on gagne toutes les épreuves de nage libre sauf le 200 mètres nage libre parce qu'on avait personne d'engagé, mais on rentre avec une razzia de médailles et c'est une première historique comme quoi la France rentre en tête d'un classement européen.
Ouais, ok. C'est dur à gérer ça parce que j'ai l'impression, tu vois, comme beaucoup de sports individuels, que ça se gagne seul la natation. Mais tu as besoin des autres parce que tu as besoin d'avoir dans ton bassin des gros noms, des gros records dans ta ligne d'à côté pour te tirer un petit peu vers le haut.
Dans un bassin au quotidien, l'entraînement, il faut s'entraîner avec des gars et des filles avec qui on s'entend bien parce qu'on partage des moments très compliqués. Et moi, les garçons et les filles avec lesquels je me suis entraîné, que ce soit à Marseille ou à Antibes, voilà, il y avait une très bonne ambiance, une très bonne cohésion en fait. Et moi, c'est ça qui m'a aidé, qui m'a porté parce que quand t'es pas bien, qu'il fait nuit, qu'il pleut, il y a du vent, et le 2 janvier, on a beau être à Antibes, on est à l'extérieur, on se dit waouh, c'est quand même chaud de faire ce sport, donc c'est bien d'être entraîné, de se soutenir. Et en effet, c'est un sport individuel, mais au quotidien, on évolue dans ces groupes d'entraînement. Voilà, au-delà des noms, moi je pense que c'est plus la relation qui est importante. Et même au sein de l'équipe de France, il y a eu des rivalités, des adversités, des moments pas forcément très sympas. Mais à un moment donné, voilà, surtout quand on fait des relais, on met le bonnet d'équipe de France sur la tête et on essaie d'être le meilleur élément du relais pour que la performance collective puisse être magnifiée.
Ouais, bien sûr, je vois très bien. Ouais, du coup, c'était toi, tu l'as tiré comme quelque chose de très positif.
Bien sûr, parce que la con.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et l'adversité, c'est ce qui m'a permis aussi de connaître mes équipes de France au tout début. Au lieu d'être dans les deux premiers nageurs français, je pouvais me permettre d'être dans les 4-5 meilleurs pour goûter à ces équipes de France et à ces compétitions internationales. Donc, les relais ont beaucoup contribué dans mon développement. Et ça, j'en serai toujours éternellement reconnaissant.
Ouais, c'est vrai. Ouais, le fait d'être en relais, ça te permet de courir avec les meilleurs, quoi.
C'est ça. Du coup, tu concours avec tes concurrents en France, mais contre tes concurrents étrangers. Donc, c'est ça qui est délicat dans les relais. C'est que toute l'année, on est en adversité, on est en compétition les uns envers les autres et du jour au lendemain, on devient coéquipier.
Il y a eu des moments où tu as failli tout plaquer, tout lâcher, parce que c'est un sport quand on en parle aux gens qui connaissent pas, souvent le mot qui revient, c'est ingrat, un peu répétitif et tout. Moi, je fais du triathlon, donc si tu veux des longueurs, j'en bouffe aussi et j'y trouve mon plaisir. Mais toi, il y a eu des moments où...
Bien sûr, il y a beaucoup de moments où on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle par rapport à la quantité d'entraînement? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire tout ça? Oui, t'es lassé. C'est un sport qui est pas traumatisant physiquement. Quoique, au bout d'un moment, t'as les épaules qui tirent un peu, mais ça peut être traumatisant psychologiquement parce que c'est de la répétition, répétition, répétition. Et c'est ça qui a failli être l'une des raisons sur lesquelles j'abandonne à un moment donné. On était entre deux Olympiades, entre 2008 et 2012. Mais voilà, mon entraîneur a su trouver les mots pour me dire « Écoute Alain, reste concentré, on finit la saison, il y a les championnats du monde à la fin de la saison 2008-2009 et la saison prochaine, je veux te voir qu'une fois par jour pendant 4 mois, tu fais autre chose, tu changes les idées et on voit si tu es vraiment motivé pour aller jusqu'en 2012 ». Et c'est ce que j'ai fait et c'est le meilleur conseil qu'il ait pu me donner, c'est me laisser finalement un petit peu plus de temps pour me poser les bonnes questions et me rendre vraiment compte que la natation me manquait. Et qu'il y avait un sentiment d'inachevé, surtout où je ne pouvais pas tout abandonner comme ça et tout plaquer sans raison.
Ok. Et tu trouves pas que le recul que les sprinteurs, vous nagez quand même beaucoup?
Ben, moi, je nage beaucoup. J'ai nagé beaucoup dans cette période-là, mais je pense que les plus grands sprinteurs mondiaux ont énormément nagé aussi sur des épreuves de 100 mètres, 100-200 mètres. Et c'est encore différent d'un pur sprinteur 50 mètres. Il y a déjà un gap. Mais c'est vrai que proportionnellement, on nage énormément par rapport à un nageur qui fait du 1500 nagibre. Moi, dans les plus grandes périodes d'entraînement, je faisais entre 60 et 70 km par semaine pour une course qui va durer moins de 50 secondes. Et un nageur d'eau libre ou de demi-fond va peut-être nager aller 100, voire 120 km dans la semaine. À peine le double de ma course, alors que sa course fait 15 fois plus. Donc oui, mais c'est ça qui est fascinant dans la natation aussi, c'est que ça nécessite une répétition encore et encore pour ancrer des mouvements. Parce que depuis des millions d'années, on a évolué sur Terre à la verticale sur des appuis solides, et là, on est à l'horizontale sur des appuis fuyants. Donc c'est un apprentissage permanent, quoi.
Ouais, ok. Tu as mentionné à l'instant Denis, ton entraîneur, du coup, avec qui on peut dire que tu as découvert le haut niveau et qui t'a accompagné tout au long de ta carrière. Quelles sont les recettes d'un duo qui marche aujourd'hui? On voit, tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent Extraterrien justement pour aller chercher un peu les conseils des grands champions, voir des relations entraîneur-entraîné, entraîneur-athlète qui durent. Ça devient de plus en plus rare, tu vois, dans un monde où tout est frénétique, tout va très vite. Vous, quels ont été les secrets et les ingrédients de votre longévité?
Je pense qu'aujourd'hui, on veut aussi des résultats très vite et c'est notre société qui ne nous aide pas à construire quelque chose vraiment du long terme. Et le principal secret de notre réussite et de notre collaboration, surtout, au-delà même de la réussite, c'est la communication. On a appris à se faire confiance, à s'apprivoiser au tout début, se faire confiance, à discuter quand des choses n'allaient pas. Et j'étais loin, loin, loin parfois d'être d'accord avec lui. Et donc, la pire des choses, ça aurait été de garder pour moi ses questionnements ou ses inquiétudes. Et le fait de lui en faire part, de discuter sur mon état de santé, mon état psychologique parfois où j'étais très contrarié sur des tracas personnels, familiaux, eh bien ça l'a aidé à comprendre mon comportement dans l'eau et de pouvoir l'adapter plutôt que de dire putain, aujourd'hui Alain il a pas envie, il est pas là, il est pas concentré, il m'énerve, il me fait chier. Ben, au moins en lui exprimant ça, je savais que le temps de la séance il me laisse tranquille et qu'après on débriefe un petit peu. Donc non, le vrai secret, c'est au-delà, bien sûr, des compétences, des connaissances techniques que peut avoir un entraîneur, c'est cette capacité de confiance et cette capacité d'écoute qui est importante. Et aujourd'hui, on le voit dans le milieu de l'entreprise, les entreprises sont friandes et soucieuses de savoir comment est-ce que peut fonctionner un entraîneur à plus haut niveau pour gérer ses équipes, pour gérer ses athlètes, gérer ses objectifs. Voilà, encore une fois, c'est la communication et prendre le temps de construire. Écoute Alain, ça n'a pas marché cette année. Je suis sûr que malgré le fait que tes chronos n'ont pas été significativement plus performants, l'année prochaine, ils le seront si tu continues à travailler comme ça. Et c'est ça le nerf de la guerre, c'est la communication et la confiance que l'on va développer l'un envers l'autre.
Bien sûr, vous avez grandi ensemble. Très intéressant ce que tu dis. Si je l'appelle et que je lui demande de me dire ton plus gros défaut, qu'est-ce qu'il me répondrait?
Il va sûrement dire que c'est ma plus grande qualité, c'est d'être têtu. Mais je pense que lui, il était aussi, quoi. C'était quelqu'un de très têtu. On est tous les deux du signe astrologique du taureau, donc voilà, je te cache pas que on met un moment avant de prendre une décision, mais quand on prend une décision, on fonce et il vaut mieux s'accorder sur cette décision à prendre, sinon on se rentre vite en frontal. Ouais, ça a été source de conflits quand même à plusieurs reprises entre nous, mais on a toujours réussi à éteindre les incendies naissants par la communication. Mais je serais curieux de savoir ce qu'il pense, tu l'appelleras.
Bah écoute, avec grand plaisir. Tu vois, là, j'aimerais bien faire une série avec les grands coachs, les grands entraîneurs. Donc, je suis sûr que lui, il aurait quelque chose à apporter. Qu'est-ce qui caractérise le duo, tu vois, par rapport à d'autres duos entre un entraîneur et un athlète, où il y a la longévité, mais la transparence, beaucoup de communication. Il y a des moments de fun aussi.
Ouais, bien sûr, il en faut. Il faut des moments de fun. Et je pense que avant tout ça, c'est qu'on a accroché sur des valeurs. Voilà, c'est, je pense qu'on a grandi, on a été éduqué selon les mêmes principes avec la valorisation du travail plutôt que la valorisation des compétences en elles-mêmes. Je me suis entraîné beaucoup avec des garçons et des filles qui étaient extrêmement doués et moins sérieuses ou sérieux que ce que je pouvais l'être. Eh bien, Denis nous a toujours accordé à des personnes moins habiles comme moi plus d'attention que des personnes qui étaient plus performantes, tu vois. C'est un gage de confiance extraordinaire. Et c'est sur ces valeurs-là que l'on a fondé notre collaboration, qui était loin d'être, encore une fois, destinée ou avoir vocation à durer aussi longtemps. Et je pense que les valeurs et la communication, c'est ce qui permet de traverser toutes les tempêtes dans un duo, dans un groupe ou dans une équipe.
Il y a un moment qui est très touchant, je trouve, dans votre entente, c'est justement après ton sacre olympique. Tu racontes que il est pas venu te voir tout de suite parce qu'il y a une espèce de vague médiatique qui arrive dessus. On pourra en parler d'ailleurs après parce que c'est pas ton passage préféré dans le sport. Et tu dis qu'il a attendu toute cette journée et que vous avez presque mis, quasiment 5-6 heures avant de pouvoir célébrer ça ensemble.
Ouais, je saurais
plus. Tu laisses passer tout ce protocole olympique et toute la vague médiatique qui suit la course.
Je pense que c'est lui qui se met volontairement en retrait. Quand tu sors de la course, il y a les médias, il y a tout le monde qui vient, qui te saute dans les bras, etc. Et je pense qu'il avait besoin d'avoir ce moment de retrouvailles où on était quasiment que tous les deux. C'est très fort de sa part d'avoir eu la patience d'attendre ce moment-là. Ô combien extrêmement fort et émotionnellement, quoi. C'est ça qui est dingue. Et ça a été l'une de ses très grandes forces qui le caractérise durant toute notre collaboration. C'est de savoir trouver les bons moments pour faire passer le bon message. Parfois avec un peu de maladresse, mais comme moi, j'ai pu lui répondre avec de la maladresse en disant on était au bout du bassin, il me disait « Bon Alain, ce que tu fais, c'est de la merde, etc. » Même s'il avait raison sur le fond, des fois, c'était la manière de le dire où à 28, 29 ans, tu ne reçois pas un message de la même manière qu'à 15 ans. Et c'est ça qu'à un moment donné, je lui ai reproché en lui disant « Mais tu sais, tu peux me dire que je fais n'importe quoi, mais trouve juste le mot, le tact et le moment pour ça. » Et ça, il le mettait en application très rapidement.
Ouais, puis personne n'est parfait dans la communication. Donc,
oui, bien sûr. Et encore une fois,
vous avez une relation de 15 ans.
Moi aussi, j'étais maladroit, quoi. Puis en 15 ans, il s'en passe des choses.
Ouais. Tu as dit plusieurs fois que l'après sacre olympique, quelque chose que tu n'avais pas spécialement anticipé, que tu n'as pas forcément apprécié sur le coup, c'est cette sursollicitation. Qu'avant, tu es concentré uniquement sur le sportif et qu'après, il y a d'autres enjeux. Il y a plus d'argent, plus de sponsors, plus de médias, plus de notoriété, plus d'attentes sportives aussi, beaucoup.
Et c'est plus ça qui met la pression. Parce que toi, tu as envie, bien sûr, de continuer encore et toujours à nager de plus en plus vite. Et ça a été. C'est ça qui m'a plu aussi dans la natation, c'est que c'est vraiment un sport chronométrique, rationnel. Tu sais que tel chrono, c'est plus rapide qu'un autre, etc. Donc, et c'est là où ça a été dur à gérer, à appréhender finalement tout ça.
Ok. Ouais, ça, en fait, ça rajoute beaucoup d'inconnus dans l'équation, quoi.
Ou des choses que tu maîtrises pas. Le fait de venir, de t'entraîner, d'être rigoureux, c'est des choses que tu fais depuis des années, que tu as appris à parfaire. Le fait de gérer des médias, des partenaires, des interviews à gauche, à droite, de prendre un avion, un train, un truc, c'est un petit peu moins usuel, en fait. C'est un petit peu moins confortable. Et pourtant, ça fait partie, finalement, du job, parce que c'est grâce, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais à cette visibilité médiatique que l'on peut avoir des contrats et être rémunéré. Parce que, en tant que tel, la natation n'est toujours pas, au jour où on se parle, en 2023, un sport professionnel. Le statut de nageur professionnel n'existe pas. Donc, tu vas vendre ton image à des partenaires qui vont te rémunérer en contrepartie de cette cession de droit à l'image. Donc, c'est ça qui est complètement fou pour le temps que ça nécessite. Et moi, je m'entraînais avec des garçons et des filles à côté de moi qui faisaient les mêmes longueurs, le même volume d'entraînement et qui étaient à des années-lumière d'avoir une bride de reconnaissance. Et c'est ça qui est fou, quoi.
Avant ton titre, t'en vis mal, la natation ?
Ouais, jusqu'à, allez, on va dire... Je commence à gagner ma vie, on va dire, à 23 ans de la natation. 23, 24 ans. Avant, j'en gagne pas ma vie. Et après, j'ai mon titre à 25. Mais il fallait tenir de 15 ans à 23 ans déjà. Enfin, on va dire de 18, 19 à 23 ans. Ce qui, aujourd'hui, est une source aussi de démotivation tout à fait légitime chez des jeunes. Hein, en se disant, ben voilà, je fais ça, je peux pas... Je peux pas payer mon appart, mes courses, mes trucs tous les mois. Comment est-ce que je m'organise ? Et ils décident de prendre ce que j'appelle la voie de la sagesse. Ils ont tout à fait raison de s'engager vers un cursus d'études qui vont leur assurer un avenir bien plus long qu'une carrière de nageur de haut niveau. Moi, j'ai fait un énorme pari là-dessus. Ça a été un pari gagnant. Mais dans tous les cas, même si j'arrivais pas à devenir champion du monde ou olympique ou peu importe, j'avais mon bagage professionnel d'entraîneur. Et ça, c'était une porte de sortie qui était... confortable de savoir.
Ok, merci de mettre ça en lumière. L'heure tourne et je voulais qu'on passe un petit peu justement sur l'après. Qu'est-ce qu'on devient après avoir été un grand champion ? Et comme je te le disais en préambule, quand je parle de toi justement à des gens qui te connaissent ou du monde du sport de haut niveau, le mot qui revient souvent, c'est Alain, c'est un gros bosseur, c'est quelqu'un qui se donne à fond dans tout ce qu'il fait, dans ses projets. Quand on est athlète de haut niveau, on voit, il y a un objectif que tout le monde comprend, c'est cette médaille, c'est ce temps, ce chrono, ce record. Mais quand tout s'arrête, qu'on choisit de ranger le maillot de bain et les plaquettes, sur quoi du coup on met son attention, sur quoi on met son énergie et toute sa force de travail ?
Non, c'est une très bonne question et je pense que c'est une question éternelle, mais en même temps, rien ne s'arrête jamais, quoi. Voilà, je pense que tout ce que j'ai pu apprendre dans le sport et en faisant du sport de très haut niveau, je m'en sers aujourd'hui et voilà, j'ai la chance d'être accompagné par des partenaires encore dans ma reconversion, mais je me repose pas sur ça. J'ai besoin de développer des compétences et voilà, comme je disais, après avoir parcouru 50 000 km en nageant, moi, par exemple, je ne peux pas concevoir que des gens se noient en France, dans un pays développé comme le nôtre, encore dans ces années-là, parce que il manque d'infrastructures pour apprendre à nager. Faut revoir, repenser cette pédagogie. Donc, c'est d'essayer de trouver des solutions techniques, matérielles et structurelles pour pallier à ce manque d'apprentissage. Par exemple, là, c'est l'un de mes leitmotifs et d'un de mes axes de reconversion. C'est de développer des infrastructures un peu partout sur le territoire national pour favoriser cet apprentissage de la natation. Développer des outils numériques dans la natation. À l'époque, on nous filmait avec une caméra, il fallait un logiciel, il fallait des rushers. Tu avais ton analyse vidéo le lendemain ou deux jours après. Mais aujourd'hui, je travaille avec une société qui permet d'avoir en temps réel l'analyse vidéo dans le sport en général, mais plus spécifiquement dans la natation. Et donc, c'est ça mon leitmotiv, c'est ça ce qui m'anime au quotidien. Pendant des années, je me suis levé tous les matins en ayant pour objectif de grappiller des petites centièmes, des secondes, des petits dixièmes et après des centièmes. Eh bien, mon objectif aujourd'hui, c'est d'essayer d'apporter ma pierre à l'édifice dans cette construction d'une société meilleure en apportant mon savoir et ce que j'ai pu apprendre en tant que sportif de haut niveau. Donc, c'est moins palpable, certes. C'est excitant et c'est tout aussi complexe parce que je ne peux pas me focaliser sur un projet. J'ai besoin d'avoir plusieurs projets pour avoir ce regard vraiment transversal et que tous ces projets-là aient un maximum de légitimité et une chance d'aboutir.
Ouais. Il y a une petite période à creux entre les deux où toi, c'était quelque chose que tu avais mûri, un peu réfléchi et...
Non, il y a eu des périodes à creux, des périodes où tu te cherches un petit peu et pour comprendre, bien sûr, comment fonctionne... le système de construction de piscine en France, voilà, c'est tout un mécanisme avec un petit cercle de toujours plus ou moins les mêmes entreprises ou les mêmes architectes, etc. Mais c'est assez compliqué à comprendre ces systèmes d'appel d'offres, de taille de projet, de services rendus à la population. Donc, il a fallu un temps pour m'approprier cela.
Ok, d'accord. Donc, si on peut citer un petit peu les différents projets sur lesquels t'es engagé, donc il y a un...
Alors, il y a des projets dans la numérisation. Déjà, je fais mes stages de natation chaque été à Antibes depuis 10 ans, au moment où on se parle. Donc, ça marche bien. C'est une notion de partage, de transmission. C'est des jeunes qui viennent s'entraîner une semaine, ils nagent deux fois par jour, ils ont entre 10 et 17 ans. Ils feront ou ne feront pas du sport de très haut niveau plus tard, peu importe, mais c'est essayer de leur partager quelques billes justement dans un cadre extrêmement sympa. Donc ça, c'est chaque été, c'est les stages de natation.
Ok, bon bah écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de papas et de mamans qui nous écoutent, donc si vous avez envie de mettre votre enfant...
Ah oui, stagealainbernard.com, vous trouverez toutes les informations.
Bon bah trop bien, et c'est ici même du coup ?
C'est à la piscine d'Antibes, les jeunes sont logés au Crêpes et donc on fait des activités la journée, on va faire du paddle, du kayak, de l'acrobranche, Et moi, je leur fais une analyse vidéo, un petit retour sur ma carrière, etc. Donc,
trop bien.
C'est quelque chose qui marche bien et qui, je suis agréablement surpris parce que ça traverse les générations. Voilà, imagine, j'ai lancé ça en 2013. Eh bien, 10 ans après, ça a
fêté,
toujours
ans,
autant de succès. Et les jeunes qui viennent sont nés peut-être après même mon arrêt de carrière par la plupart du temps. Et c'est ça qui est touchant. Voilà. Donc ça, c'est l'un de mes axes de reconversion, c'est ça.
Ok, bon, bah écoute, génial. D'autres projets ?
Les autres projets, alors les caméras à positionner derrière des hublots dans des piscines pour avoir l'analyse du mouvement, augmenter la sécurité. Je travaille avec une société française qui s'appelle Vogoscope. Et puis, le concept de piscine essentielle qui vise à développer les infrastructures sur le territoire national. Voilà. Et enfin, le dernier dada, parce qu'on est, c'est la petite fierté, ce qu'on a développé avec un copain avec qui je nageais à Marseille. On s'est perdu de vue, on s'est retrouvé il y a 1 an et demi, 2 ans. On développe des projecteurs subaquatiques pour projeter des images dans le fond des bassins par une société qui s'appelle Poulon. Donc, on est les premiers et seuls au monde à faire ça en ce moment. Et l'idée, c'est de projeter des contenus dans le fond des piscines pour l'apprentissage pour des enfants qui pourront nager au-dessus des étoiles de mer, de poissons rouges, au-dessus de la barrière de corail, plutôt que de compter les carreaux. Il y a une notion de performance, une notion de divertissement, parce que demain, on pourra nager au-dessus du lagon de Tahiti dans une piscine municipale. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement excitant comme projet.
Ouais, c'est chouette, c'est très chouette. Je voyais comme quelqu'un de très perfectionniste. Est-ce que c'est une qualité que tu arrives à retransposer facilement du coup dans tes différents projets, dans ce que tu fais?
Ouais, je suis même trop perfectionniste parce que dès qu'il y a quelque chose qui sort du couloir que je me fixe, c'est un petit peu la panique. J'ai besoin d'être organisé, voilà, de caler mes rendez-vous, mes déplacements, mes sujets que je vais aborder, etc. assez en amont parce que des fois, il y a plein de petites choses qui viennent se greffer. Et si le plan de vol est pas posé, pour moi, ça va être vite brouillon et je vais tendance à mélanger les pinceaux. Donc oui, c'est un trait de caractère, le côté méticuleux et le côté perfectionniste qui se retrouve encore en moi aujourd'hui.
Bah, je te le confirme sur l'organisation de cette interview.
Mais tu vois, ça m'a angoissé.
Ouais, je l'ai senti.
Ça m'a angoissé de décaler d'une heure ou une demi-heure, une heure, notre entretien prévu de longue date. Et voilà, c'est parce qu'il a fallu gérer notre imprévu avant. Et c'est quelque chose dont je ne suis pas à l'aise parce qu'à partir du moment où moi je m'engage, je tiens parole. Et
j'ai vu, j'ai rarement vu autant de professionnalisme et de rigueur avec les athlètes. Je sais que souvent, c'est beaucoup plus dilettante. Donc, je te remercie pour ce professionnalisme. Moi, j'ai du monde de l'entrepreneuriat et de la Startup Nation, donc on compte les secondes et les minutes, donc ça me va très bien aussi. Est-ce que justement, ouais, il y a des fois où ça t'a joué des tours, ce perfectionnisme ou ce côté très méticuleux?
Oui, ça m'a forcément joué des tours. Hein. Chaque facette de notre personnalité peut être une force ou une faiblesse en même temps, donc j'ai peut-être pas forcément d'exemple en tête, mais si, parfois, à vouloir caler un peu trop de rendez-vous, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui se décalent et ça te fout le reste de ta journée en l'air, mais avec des choses qui peuvent être parfois importantes. Donc aujourd'hui, mon gros souci, c'est la priorisation en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qui est plus important que ça à faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Notre interview, notre entretien, elle n'est pas fondamentale, elle n'est pas extrêmement importante pour moi. Je t'ai donné parole, je tiens parole. Donc à moi d'organiser mes journées un petit peu chamboulées comme ça. C'est un des exemples auxquels je suis amené à arbitrer sur ma propre organisation personnelle et qui est, je ne le cache pas, parfois source un petit peu de stress et d'angoisse quand j'arrive à la fin de ma journée de me dire « Oh là là, j'ai pas réussi à faire tout ce que j'avais prévu » et j'ai encore ça quand je m'endors le soir ou quand je me réveille au milieu de la nuit en disant « Oh là là, faut pas que j'oublie tel ou tel projet ». Mais en même temps, c'est ce qui me permet de me sentir vivant. Je pourrais pas faire un métier après avoir vécu autant d'émotions, de sensations. Je pourrais pas faire un métier avec des horaires fixes, sans construction de projets et tous les risques et les à côté que cela nécessite. Donc, c'est ce qui me tient vivant aujourd'hui, aux grandes dames de ma femme aussi, qui parfois me dit tu fais trop de choses, etc. On n'a pas trop le temps de faire ci, de faire ça. Eh bien, c'est aussi d'organiser des choses à l'avance pour prendre du temps pour ma famille. Et ça, c'est très important, quoi.
Bien sûr. Bon, en tout cas, je te remercie d'être là pour cette interview parce qu'à défaut d'être très importante pour toi, elle était importante pour moi. Bien sûr, parce que c'est comme ça qu'on vit et tout, qu'on tourne. Et en tant que boulimique de projet, je te comprends 1000 fois sur la capacité à gérer les sollicitations. C'est quelque chose de compliqué. Dernier sujet. Après, je te laisse partir parce que je sais que ton agenda est bien serré aujourd'hui. On partage une passion. Alors moi, c'est une passion de famille, mais j'ai jamais croqué plus loin, tu vois. Justement, c'est l'aviation. Tu l'as mentionné plusieurs fois. Toi, c'est venu plus de très jeune. Tu voulais être pilote de chasse.
Ouais, c'est plus venu tout seul. Alors, donc toi, ça vient de famille.
Ouais, moi, c'est mon père qui a toujours rêvé d'être pilote de chasse et qui était, en fait, pour la petite information, qui a fait son service militaire en tant que chauffeur et premier homme du pilote qui a tiré sur le ballon dirigeable du premier essai nucléaire français.
Waouh, d'accord.
Donc, il a accompagné ce monsieur pendant plus de 2 ans et demi, je crois. Donc, mon père, si tu veux, a eu une histoire, tu vois, très particulière avec ce grand homme. J'ai oublié son nom. Que Dieu me pardonne.
Mais du coup, il voulait devenir pilote et il a jamais été. Et en fait, c'est plus cette...
Exactement.
Cette comment dire, vocation un peu inachevée qu'il essaie de te transmettre pour te dire...
Exactement.
Il faut que tu fasses ça.
Exactement, ouais. Donc, très, très jeune, il me l'a poussé, il me l'a répété, il me l'a.
C'est marrant,
ça. Il me l'a soufflé. Et puis, tu sais, je pense un peu le gamin un peu turbulent, un peu rebelle, forcément, il voulait pas faire ce que demande papa. Plus tard, tu vois, secrètement, j'ai essayé de passer l'ENAC, que j'ai pas eu.
D'accord. Pourquoi secrètement, tu voulais pas lui dire?
Je voulais faire la surprise. Tu vois, je voulais lui faire la surprise et j'ai pas été pris au test. Tu vois un petit peu les tests, les différents tests.
Mais tu voulais faire que la bonne surprise, pas que la surprise. Parce que si tu voulais faire la surprise, tu aurais pu lui dire je me suis inscrit au concours de l'ENAC.
Je lui ai dit après. Je lui ai dit après coup.
Donc l'école nationale de l'aviation civile.
Ouais, exactement. Très, très concrètement, c'est l'école qui permet d'être pilote de ligne. Voilà. Et donc, tu vois, le dernier test, donc j'ai passé les écrits, j'ai passé les oraux et tu as un dernier test technique dans lequel tu es mis dans un simulateur et dans lequel tu as énormément de calculs et d'actions à faire avec des protocoles. Peut-être pour les gens un peu plus sensoriels, on est dans une salle un peu toute noire avec une feuille de papier devant nous, des boutons un peu de toutes les couleurs, des bruits qui sortent un peu partout et on doit respecter des commandes du type faire des multiplications assez compliquées tout en appuyant sur le bouton rouge dès qu'il s'allume, enfin ce genre de choses. Il faut atteindre, je crois, le 8e niveau pour prétendre continuer et je me suis arrêté au 7e, donc c'est pas grave, mais j'avais pas assez bossé, tu vois, et c'est ce jour-là dans la chambre en préparant enfin, juste avant d'aller justement à cette épreuve-là, en parlant aux autres gars à côté, que j'ai compris qu'ils étaient tous beaucoup mieux préparés que moi. Et je me suis dit, mince, j'ai pas assez bossé le truc, quoi.
Et on peut le passer qu'une fois?
Je pense que c'est que tu peux le repasser. Je pense que tu peux le repasser. Mais il faut se
refarcir tous les.
Toutes les maths-sp que tu avais entendu parler, ouais. Mais du coup, toi, c'est quoi ton histoire avec l'aviation?
Moi, elle n'est pas du tout issue du milieu familial, hein, loin de là, en fait. Je me fais une fixation là-dessus, alors que c'est peut-être pas forcément ça, mais habitant à Aubagne à l'époque, à Aubagne, il y a le premier régiment étranger de la Légion étrangère. Et en fait, il y a chaque année est célébrée une bataille remportée par les légionnaires qui s'appelle la fête à Cameron, en fait, où un petit bataillon de légionnaires a tenu corps à des centaines, pour pas dire des milliers d'assaillants. Et une année, il y a très 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 longtemps, la patrouille de France de l'époque était passée au-dessus de ce régiment pour féliciter ses frères d'armes. Et donc chaque année, annuellement,
j'adore les histoires comme
la
ça.
Patrouille de France passe au-dessus du régiment, du premier régiment étranger de la Légion étrangère à Aubagne. Et ça coïncidait à quelques jours près avec mon anniversaire. Et je me disais, ah, oh, c'est génial, la patrouille de France passe pour mon anniversaire. Ils sont quand même super sympas. Donc j'ai grandi avec ça dans la tête. Et puis j'ai eu la chance d'aller sur un meeting aérien une fois avec mes parents. Et puis voilà, j'ai passé toute la journée la tête en l'air. Et je me suis dit, voilà, je veux faire ci, je veux faire ça, mais je ne suis pas forcément bien renseigné. Le temps est passé, j'ai commencé la natation, etc. Et ça s'est avéré être assez incompatible avec un cursus de haut niveau dans lequel je m'étais engagé pour pouvoir faire une incorporation dans un corps d'armée pour être potentiellement pilote de chasse. Donc j'ai laissé ça de côté. Et dans les années 2009-2010, entre deux Olympiades, que j'ai eu un petit temps de respiration où mon entraîneur Denis m'a laissé un peu respirer, j'ai décidé de commencer à passer mon diplôme de pilote privé qui s'appelle le PPL. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Donc je vole pas très loin de chez moi.
Quand est-ce que tu l'obtiens?
Je loue un avion. Je l'obtiens en juillet 2010, mon diplôme.
Ok. Ouais, donc juste à la fin de ta carrière.
Ouais, il restait encore 2 ans. Et du coup, voilà, c'est mon échappatoire, c'est ma passion, c'est ma façon de prendre de la hauteur et de partager cette passion avec des amis dans mon environnement. On a la chance d'habiter une région où il fait très souvent beau, il y a de très bonnes conditions, très souvent favorables pour voler.
Ouais, bah ici, tu dois te
mais
régaler.
Mais je suis pas un grand baroudeur.
Tu dois te régaler ici, hein, franchement.
Ah ouais, ici, on a la mer, la montagne et on peut aller en Corse, on peut aller voilà, dans des supers endroits.
Ouais, ok, d'accord. Mais moi, je te dis, mon plus beau vol, je pense, c'était sur Annecy. Si tu décolles de l'aérodrome d'Annecy, t'as 1h45 aller-retour pour faire le tour du Mont Blanc.
Ah, ça, c'est extraordinaire. Ça, je rêve de le faire.
Ça, c'est cool. Et franchement, ça se fait bien, quoi.
Donc, bah, je rêve de le faire. On essaiera de le faire ensemble un jour.
Bah, écoute, avec grand plaisir. Moi, je vais à Annecy là au mois de mai. Donc, si tu veux.
Mais non, moi, du coup, de par cette passion et cette notoriété que j'ai eu la chance d'avoir. Eh bien, j'ai pu rencontrer, alors je passe un petit peu les circonstances, mais après les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, je suis invité à une émission qui s'appelle Sacrée Soirée. La ministre des Sports de l'époque, Roselyne Bachelot, me fait la surprise en lors de cette émission que je pourrais potentiellement voler avec la Patrouille de France. Et puis, on me dit que je serai contacté. Les semaines passent, les mois passent, les années passent. Pas de nouvelles, pas de son, pas d'image. Et un jour, j'ai un appel d'un officier des relations publiques de la Patrouille de France qui me dit « Bon ben Alain, je viens d'arriver à mon poste, je récupère un dossier sur mon bureau. Est-ce que ça te dit de venir rencontrer la Patrouille de France à Salon de Provence ?» Eh ben, j'arrive tout penaud comme un gamin à 26 ans, un truc comme ça. Il y a vraiment un respect mutuel de moi envers les pilotes et mécaniciens et inversement. Et puis de là, est pris date pour passer une visite médicale pour une aptitude siège éjectable que j'obtiendrai. Et donc, je ferai un vol avec la Patrouille de France un an après. Et ça a été un moment extraordinaire. Et encore après, j'ai pu voler en rafale avec les pilotes qui présentent le rafale dans les meetings aériens. Et ça a été des moments extraordinaires de partage. Et je sais que tu as interviewé Popov, le capitaine Orlovski, qui est champion du monde de voltige aérienne. Et j'ai été, j'ai été parrain de leur équipe de voltige de l'armée de l'air. Et là aussi, prendre extrêmement de jets, beaucoup de jets positifs et négatifs dans un petit avion de voltige, ça a été juste extraordinaire.
Ouais, on embrasse le capitaine parce qu'il m'a proposé aussi de passer les voir et j'ai toujours pas eu le temps de le faire, mais en tout cas, ça a dû être une expérience extraordinaire.
Ouais, c'est vraiment de très belles expériences. Voilà, ce sont des hommes et des femmes engagés, extrêmement passionnés, et je pense que c'est sur ce terrain que l'on se retrouve aussi. Donc voilà, j'ai eu la chance de vivre des émotions extraordinaires et plus tard, j'ai fait un petit peu de parachutisme aussi, par exemple. Donc voilà, c'était une question de compenser un petit peu le manque d'adrénaline. Et j'ai passé ma PAC, ouais.
Ok, d'accord. Ok, bon, bah, cool.
Mais ça fait un moment que j'ai pas sauté, donc chaque chose en son temps.
Ouais, ok.
Mais on pourrait en parler pendant des heures, si on parle d'aéronautique et qui plus est encore, si on part vers les étoiles et les observations stellaires, c'est vraiment des grandes passions, quoi.
Bah écoute, on pourra en reparler parce que moi, écoute, je me suis acheté un télescope là il y a pas très longtemps. Donc,
pareil.
Donc je suis en train de m'y mettre tout doucement. Mais voilà, comme toi, assez fasciné par tout ce qui se passe en l'air. Merci infiniment. En tout cas, d'avoir pris le temps. J'aurais pu parler en deux heures, mais je vois qu'il est 58 et qu'on a dit qu'à pile on dégainait. J'ai une toute dernière question, c'est tu peux me répondre en une phrase, c'est de savoir quel est le ou la prochaine extraterrien ou extraterrienne que tu me recommandes justement d'aller interviewer pour parler un peu de performance, mais aussi, tu vois, de projets un petit peu annexes, de reconversion avec de champions ou de championnes. Toi, c'est qui est-ce que tu aimerais bien entendre pour découvrir un peu ces passions à côté du sport?
Il y en a plein d'extraterriens. Est-ce que c'est purement sport ou pas?
Il faut qu'il y ait une petite
une composante sport. Non, parce que je pensais à une personnalité fascinante, à l'astronaute Jean-François Clairvoy.
Ok, mais ça me va très bien, mais c'est quand même une grosse dimension physique et
sportive. C'est extraordinaire. Et pour la petite histoire, c'est un pote de promo de mon beau-père, en fait, de Polytechnique.
Ok.
Donc il y a un petit lien comme ça. Sinon, Thomas Pesquet est assez sportif. Tu pourrais le voir. Non, il y en a des dizaines et des dizaines de sportifs. Il faut à tout prix que tu coches, même s'il est très difficile à attraper, il faut cocher la case Théo Curin. Voilà, parce que c'est un garçon extraordinaire qui gagne vraiment à être connu et dont j'ai la chance de côtoyer dans le team EDF. J'en ai pas du tout parlé, mais bien sûr, la place de mes partenaires et sponsors dans ma vie aujourd'hui a un rôle fondamental. Et EDF, partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, nous sollicite pas mal pour promouvoir les bienfaits du sport dans notre société, et ça, c'est une grande fierté de faire partie de cette équipe.
Bon, écoute, cool, et merci de leur faire hommage. Merci pour les recommandations aussi. Je sais pas si j'arriverai à choper Thomas Pesquet, mais Théo Curin, je pense que c'est beaucoup plus jouable. Merci infiniment, Alain. Je me suis régalé pour ce moment, et puis comme on dit chez moi, il y a que les montagnes qui se croisent pas, qui ne se recroisent pas. Donc je te dis à très bientôt pour aller parler un petit peu des étoiles.
Avec grand plaisir, merci.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.